Là, nous allons passer, mesdames et messieurs, à une capitale de la mode. Ben, je dis ça. C'est vrai. New York. New York, où on peut s'habiller n'importe comment. Oui. Richard Châteauvert va nous le confirmer, sans doute. Bonjour, Richard Châteauvert à New York.
Bonjour, Paul. On vend beaucoup de Speedo ici.
Hein? Ah oui, encore. Hein?
Encore? À New York. Mais New York, honnêtement, Richard, confirme-moi qu'à New York, on s'habille n'importe comment.
Non, les
oui
gens
et
sont...
non. C'est quand même une ville très élégante, Paul. Les New Yorkais sont très élégants, selon moi. Bon. Mais vous savez que la mode dans les entreprises, dans les cabinets d'avocats, ça a commencé le vendredi. Moi, je suis arrivé ici en 1996 et je travaillais dans les cabinets d'avocats comme traducteur et on appelait ça « Dress Down Friday ». Le vendredi, tout le monde, les avocats, le personnel de soutien avait le droit de ne pas porter de cravate. Et là, c'est devenu « Dress Down » tous les jours. Sauf qu'évidemment, quand un avocat a une rencontre, quand il va devant le tribunal, il faut qu'il porte une cravate. Mais toutes ces modes commencent toujours à New York. Alors, mais c'est une ville extrêmement élégante. On peut acheter tout à New York. Il n'y a aucun problème. Mais évidemment, on peut s'habiller en jeans.
Ben voilà. Et Richard.
Les gens comme cette femme qui se plaignait de son beau, qui arrive pour la fête des mères en survêtement. Oui. Ça, c'est moins... on ne peut pas faire ça ici.
Non, mais voilà. Alors, donc, il y a une mode new-yorkaise. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, parce qu'on disait, oh, un style New Yorker. Je décris rapidement. Vous portez simplement, je parle pour homme, là, un gaminet, un T-shirt ou encore une camisole noire avec un veston, mais des jeans. Ça, c'est très new-yorkais, ça.
Ah oui, mais ça c'est vrai. Mais tout le monde ici porte des jeans. Si vous regardez à la télévision des reportages, vous regardez CNN, ils ont tous une veste et ils portent des jeans. Quand ils se lèvent, ils se promènent avec l'invité, on voit qu'ils ont des jeans. Ça, moi, j'aime pas ça. Là, je pense qu'on doit pas porter des jeans avec une veste et une cravate. Mais enfin, c'est comme ça. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de jeans ici. Mais encore une fois, c'est une ville très élégante. Je l'ai déjà dit, vous savez, un vendredi soir, disons, avant la pandémie, après la pandémie, un vendredi soir ici, il y a peut-être 5 à 10 000, 10 000 hommes qui sont en smoking et 5 à 10 000 femmes qui sont en robe de soirée parce qu'il y a des cocktails partout dans la haute société. Oui, il y a des cocktails ici. C'est que ici, on a de tout. Une fois, je passais à côté de Madison Square Garden et il y avait un concert d'un groupe heavy metal. Je me rappelle pas si c'était qui. Tout le monde était heavy metal. Tout le monde était habillé en T-shirt noir et en jeans noir. L'autre chose, c'est qu'on a les Noirs ici, la communauté noire du Bronx, de Brooklyn, du Queens. Ce sont eux, le rap, le hip-hop a été inventé ici dans le Bronx. Donc, toutes les modes de la casquette à l'envers avec la palette derrière, les baggy jeans, les jeans qu'on porte quasiment sous les fesses, tout ça a commencé à New York, dans le Bronx.
Bon, alors parlons de New York ce soir. Il y a beaucoup d'effervescence parce que à Saturday Night Live, émission culte, l'animateur est Elon Musk.
Et le but, évidemment, Paul, d'avoir recruté Elon Musk, qui est le premier homme d'affaires depuis Donald Trump en 2015 à animer cette émission, c'est pour les codes d'écoute. Et c'est sûr que ça va marcher parce qu'on ne parle que de Elon Musk depuis deux semaines.
Ah oui.
Il a été contesté par les membres de l'équipe. Mais c'est quand même quelque chose. C'est cinq jours. Ça commence lundi. Il y a une réunion lundi. Ensuite, on développe les sketchs mardi et mercredi. Et jeudi, on commence à répéter. Vendredi, on répète. Et tout ça, Musk, lui vient de vivre une semaine incroyable. Rappelez-vous, Paul, il y a sept jours, il y a une semaine, jour pour jour, la capsule SpaceX a ramené quatre astronautes de la Station spatiale internationale. Et mercredi, SpaceX a testé avec succès le vaisseau Starship SN15. Donc, Elon Musk, là, il est hyper occupé. Je sais pas comment il gère son temps. Et en plus, il a contribué à la plus que la progression, mais la propulsion d'une crypto-monnaie qui s'appelle Dogecoin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dogecoin. C'est la crypto-monnaie sur laquelle on voit un Shiba Inu. Une crypto-monnaie qui a été lancée, Paul, imaginez-vous, en blague. Ça a été lancé à la blague fin 2013. C'était une meme Internet avec ce Shiba Inu. Il y a deux types qui ont lancé cette crypto-monnaie. Elle a progressé de 25 000% en 6 mois. Ça veut dire que si vous aviez investi 1 000 $ dans Dogecoin il y a 6 mois, vos 1 000 $ valeraient 250 000 $ aujourd'hui. Mais évidemment, est-ce que c'est une bulle? Ça, c'est la... J'en ai parlé il y a quelques semaines des crypto-monnaies que je comprends à peine moi-même, je dois dire. Ouais. J'ai regardé tout un segment sur CNBC il y a 2 jours et l'animateur ne comprenait pas lui-même. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a dit qu'il y a aucune valeur intrinsèque qui sous-tend les crypto-monnaies, mais on ne parle que de Bitcoin. Et évidemment, qui soutient les crypto-monnaies? Elon Musk, c'est le personnage de l'heure. Il a annoncé en février que Tesla, pas lui-même personnellement, mais Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et là, comme il tweet beaucoup, il y a plus de 50 millions de followers, il tweet sur Dogecoin. À un moment donné, il a tweeté Doge Father. Il s'est qualifié de Doge Father, un jeu de mots, évidemment, sur Godfather. Et hier, il a été prudent parce qu'il a dit, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, mais soyez prudent. Donc là, les gens pensent que son passage, est-ce qu'il va y avoir des allusions à Dogecoin ce soir? Qu'est-ce que ça nous réserve? Évidemment, on va vous en parler demain matin. On va voir tout.
Mais ce passage-là à Saturday Night Live va faire jaser. Il fait déjà jaser. Il y a des gens... Tu sais, je lisais la chronique dans Variety qui disait que, bon, qu'est-ce qu'il s'en va faire là? Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de cette présence-là.
Thérèse, le simple but, c'est Lorne Michaels, le producteur exécutif qui est originaire de Toronto, d'ailleurs, qui est là depuis le début. C'est lui qui a lancé l'émission. C'est pour les codes d'écoute.
Exactement.
Ça fonctionne parce qu'on en parle depuis 2 semaines.
Ah oui,
et non seulement
ça,
on parle de Dogecoin, puis il y a des gens qui investissent dans Dogecoin. Et c'est... Ici, aux États-Unis, ça n'arrête jamais les modes et les tendances.
Et parlant de modes et de tendances, Elon Musk, justement, a choisi d'aller s'établir dans une ville très cool. Quand on dit très cool, ça a toujours eu cette réputation d'accueillir des artistes un peu plus marginaux, des musiciens. Austin, au Texas, il s'en va s'établir là.
Oui, le slogan de Austin, c'est « Keep Austin Weird ». Faites en sorte que Austin reste weird. Austin, c'est situé à 260 kilomètres à l'ouest de Houston. C'est la capitale du Texas. Il y a une université avec 50 000 étudiants. Il y a évidemment les fonctionnaires. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une bulle immobilière dans les années 1980 avec la bulle pétrolière. Ensuite, il y a eu un effondrement de l'immobilier. Donc, ils se sont retrouvés avec un stock de maisons. Il y avait trop de maisons, donc l'offre était plus forte. Ça a causé un effondrement des prix, ce qui a permis à tous ces musiciens, ces artistes de la contre-culture de s'établir à Austin. Et à un moment donné, par pur hasard, un bibliothécaire un peu anti-commercial, il participait à une émission, il versait de l'argent à une organisation caritative et l'animateur lui a demandé « Pourquoi vous donnez de l'argent? » Il dit « Je ne le sais pas. » Il dit « Ça aide à faire en sorte que Austin reste weird. » C'est devenu le slogan. « Keep Austin weird. »
Et Austin City Limits.
Ben exactement, c'est
Austin City Limits, c'est là.
Austin City Limits, c'est
un festival au mois d'octobre. Il y a le festival de cinéma South by Southwest qui est au mois de mars. Ouais. C'est vraiment une ville intéressante. Savez-vous ce qui se passe? Depuis un an, le marché immobilier, les prix de l'immobilier ont progressé de 20%. Qu'est-ce qui est arrivé depuis en 2019? Apple a annoncé l'établissement d'un campus d'1 milliard de dollars qui va recruter 5 000 salariés, mais ça va aller jusqu'à 15 000. Ils ont annoncé récemment la construction d'un hôtel. Google s'installe là. Et qui s'est installé là? Tesla.
C'est ça.
Tesla a commencé la construction d'une usine d'1 milliard de dollars. Et il y a quelques mois, Elon Musk a lancé un appel à la construction immobilière. Il dit ça prend des maisons, des habitations. On manque de maisons. Alors, vous allez voir, la ville va se transformer. Elle ne sera plus abordable pour les artistes. Mmh. Ça me fait penser à New York. Ici, moi, j'habite dans le quartier de Greenwich Village. Dans les années, jusqu'en 1960, là, tous les Bob Dylan s'installaient ici. Les jeunes artistes, les jeunes musiciens pouvaient s'installer ici. Puis là, il y a eu gentrification. Les prix de l'immobilier ont augmenté. Donc, les jeunes artistes, maintenant, quand ils arrivent, ils doivent aller à Brooklyn. Au début, ils sont allés à Williamsburg. Il s'est passé la même situation. Les hipsters se sont installés à Williamsburg. C'est devenu cool. Les jeunes bourgeois sont venus. Ils ont des immeubles qui ont été construits. Et alors là, les jeunes artistes doivent aller plus loin à Brooklyn. Ça va être la même chose, malheureusement, à Austin.
Austin.
C'est une ville qui développe très rapidement.
Et le samedi soir, à la télévision éducative, appelons-la ici,
PBS. Vous avez l'émission Austin, c'était les mythes.
Avec les plus grands artistes. Et
ils vont tous dans ce festival.
On avait des concerts extraordinaires. Mmh.
C'est une ville qui a énormément d'âme. C'est la raison pour laquelle on dit « Keep Austin Weird ».
Bon.
Mais voilà que l'homme, la troisième fortune du monde, parce qu'il faut que je vous souligne, Paul, que Elon Musk était la deuxième fortune du monde la semaine dernière, mais selon le classement Forbes en temps réel, il a glissé au troisième rang. Derrière la famille de Bernard Arnault et de son épouse, la Québécoise Hélène Mercier. Donc, Musk et Bezos est premier. Bezos a perdu 10 milliards en une semaine.
Bon.
Musk a perdu 7 milliards en une semaine.
Alors,
donc,
voilà
comment ça se passe au haut de la pyramide.
On va s'arrêter là-dessus. On va te souhaiter un bon samedi à New York, Richard. Mais demain, j'aimerais ça te préparer. J'aimerais ça que tu me parles de ta réaction à toi pour le grand divorce. Le grand divorce, Bill Gates... divorce de sa femme, Melinda, je crois, c'est ça?
Oui, ouais. Oui. Et Melinda qui avait bien mis en garde Bill Gates contre Jeffrey Epstein parce qu'ils étaient... pourquoi Bill Gates était-il si ami avec Jeffrey Epstein?
Alors, j'aimerais ça que tu me parles de ça demain. Et comment les arrangements ont été faits? Parce qu'entre vous et moi, Thérèse, quand on parlait de Lola dans le temps, et de l'autre. Mm-hmm. Mais là, on parle d'une fortune assez exceptionnelle. Je ne crois pas que Melinda aurait de la difficulté avec ses fins de mois.
Je pense qu'on a déjà signé des papiers bien avant le mariage.
Alors, demain,
non,
Richard...
Non, il n'avait pas de contrat prénuptial. Oh, c'est ça, toute la question.
Oh!
Oui, non, je sais.
Anne-France Goldwater est à l'écoute. Maître Sylvie Schirm également est à l'écoute. Merci beaucoup, Richard.
Au revoir.
Merci, Richard.
À demain. Je veux que Richard nous parle de ça, parce que Richard, c'est... il est bon là-dedans.
Ah oui.
Parce qu'il est à New York, il y a tous des potins, puis tout ça.
Oui.
Pis il m'envoie des trucs la semaine sur les malheurs de Ghislaine Maxwell, qui est toujours en prison. Et là, le procès a été reporté. Vous savez, celle qui était la pourvoyeuse, façon de parler, de Jeffrey Epstein. Puis Richard, il aime ça, ces affaires-là. Et il est spécialiste. Et il a réagi en disant, « Oh my God, ça va être le divorce de l'année, Thérèse. »
Oui,
et peut-être
ça va faire jaser beaucoup.
De la décennie, Bill Gates et sa femme qui divorcent.